pas parce que je ne voulais pas vous déranger, mais surtout pour rester hors connexion, parce que nous allons parler des réseaux sociaux ce soir. Et déjà, on pourrait se dire, qu'est-ce que Jésus aimerait dire à tous ces dirigeants qui ont mis en place tous ces réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Vous le connaissez mieux que moi. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce que c'est qu'un réseau social. Donc déjà, c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour s'échanger des informations, des photos, du texte, ou peu importe, autour donc de l'Internet. Donc un partage. Et là, donc, on va pouvoir, en ligne, se transmettre des informations, même si on est à des kilomètres, et parfois même si on se trouve à quelques centimètres. On peut s'envoyer des textos, on peut s'envoyer des mails, et parfois dans l'administration, on se rend compte que les gens sont dans le même bureau, et quand vous appelez, ben, il suffit de vous adresser à la mauvaise personne. Ça prend des jours et des jours, parfois des semaines, avant d'avoir la personne qui se trouve juste à côté de celle que vous avez eue en premier. Et ça, c'est ce qu'on appelle le réseau social. C'est des échanges qui sont logiquement pour faciliter les choses, et on s'aperçoit que parfois, ça limite autre chose. Et bien, curieusement, la Bible avait déjà parlé d'un semblant de réseau social. Et on remonte là dans le livre de la Genèse, où on nous dit que Dieu va... Alors, c'est Genèse, mais moi, je vous donne un texte du livre d'Hébreux qui montre que par la foi, Noé, divinement averti de ce que Dieu voulait faire, eh ben, il va construire l'arche pour le salut de sa maison. Et ça se trouve dans le livre de Genèse. Mais nous voyons que c'est la foi qui va pousser Noé à construire cette arche. Mais remontons un petit peu dans l'histoire et comprenons pourquoi il va devoir construire cette arche. Tout d'abord, on sait très bien que le cœur des hommes se tournait uniquement vers le mal. Nous savons que ce sont des gens qui, après la création, il y aura une méchanceté terrible qui va faire que Dieu désire démettre fin à cette race humaine. Mais nous savons également, et c'est là la bonne nouvelle, la première bonne nouvelle pour nous ce soir, c'est que Dieu n'abandonne pas ses enfants, n'est-ce pas ? Ça, nous l'avions déjà vu ensemble. Il va voir là Noé, un homme qui est juste, un homme qui est intègre, un homme qui désire marcher avec Dieu. Et pour détruire la terre, il ne pouvait pas le faire sans préserver Noé. Et c'est ainsi que Dieu va parler à Noé. Et là, le texte nous dit qu'il va être divinement averti. Aujourd'hui, on pourrait se dire, est-ce que Dieu nous avertit encore par rapport à tous ces réseaux sociaux qui peuvent parfois nous emprisonner ? Et tous ces gens qui étaient libres au moment de l'arche, de la construction de cette arche, ils pouvaient venir et aller comme ils le souhaitaient, n'est-ce pas ? Ils pouvaient vivre comme ils le souhaitaient, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils faisaient. Ils faisaient que le mal, et leur cœur se penchait continuellement vers le mal. Mais alors, lorsque Dieu parle, lorsque Dieu avertit Noé, il veut le salut de cette maison, le salut de cet homme et de toute sa famille. Et c'est ainsi que Noé va se mettre à construire cette arche. Et après l'expérience du déluge, les hommes et les femmes vont commencer à se dire « qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» pour éviter à nouveau un déluge. Parce que si Dieu a réussi à détruire une fois et que nous continuons à être méchants, il risque d'y avoir un second déluge. Dieu pourrait à nouveau envoyer suffisamment d'eau pour détruire à nouveau la terre, même s'il avait déjà fait cette alliance. Et on le voit dans le signe de l'arc-en-ciel que Dieu avait fait cette promesse. Plus jamais la terre sera détruite dans son ensemble, dans sa globalité, par les eaux pluviales. Un pour tous et tous pour un. Et si vous avez vos Bibles avec vous, vous voyez dans Genèse chapitre 11, le verset 1er, ce qui résume ce que je viens de résumer, un pour tous et tous pour un. Genèse 11, verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et lorsqu'on considère les termes hébraïques, nous pouvons voir qu'ici c'est un seul langage. Ça veut dire que les gens utilisaient les mêmes mots pour dire les vocabulaires dont ils avaient besoin. Et donc, Dieu avait suscité, dès le jardin d'Éden, une langue pour que tout le monde puisse s'en servir. Il n'avait pas besoin de plusieurs langages. Il n'avait pas besoin de différencier ces langages. Ainsi, le texte nous dit que toute la terre, donc tout le monde créé à ce moment-là, tous les êtres qui vivaient dans cet endroit, ils avaient tous les mêmes mots et le même langage. Et c'est ainsi que l'idée était venue dans leur tête après avoir trouvé leur destination. Ils allèrent à l'est et cela nous induirait peut-être l'idée de se tourner vers le soleil en mettant leur espoir et leur confiance dans cette direction et probablement même leur foi. Et c'est ainsi qu'ils s'étaient réunis pour se dire « Faisons-nous un nom. Allons élever une tour assez haute pour que nous puissions survivre au cas où s'il y a encore un déluge. Réunissons-nous, vivons au même endroit. Soyons tous ensemble, un pour tous et tous pour un. » Ils étaient donc là, en train de chercher une sécurité. Parce qu'ils avaient peur. Et rappelez-vous de ce qu'on a déjà vu ensemble. Dès le jardin d'Éden, au moment où il y a eu cette simple désobéissance, la peur s'est installée. Et ça, c'était les dégradations, l'une des dégradations que nous avions vues ensemble. La peur de mourir. L'homme cherche la sécurité sans Dieu. Une quête visible vouée à l'échec. Bien évidemment, parce que Dieu avait donné cet ordre. « Multipliez-vous et remplissez toute la terre. » L'objectif de Dieu était une terre pour tous et non pas un morceau de terre pour tout le monde. Et c'est ainsi qu'il avait donné cet ordre d'aller, de multiplier, de remplir la terre. Et remplir la terre, c'était remplir la surface de cette terre, tous les recoins de cette terre. Et là, il s'était mis en tête de faire exactement le contraire. Ils avaient ramené tout le monde du plus loin possible et ils se sont dit, c'est ici qu'on va vivre notre expérience, c'est ici que nous allons construire notre tour. Ils voulaient, ils veulent se faire une renommée. Et l'homme, dans sa personnalité, a cette ambition de se construire un nom qui couvre la face de la terre. Mais Dieu, l'homme appartient à la terre et non au ciel. Ils ont été créés pour la terre, sa planète, son lieu de résidence et d'épanouissement, avec une responsabilité sur toute la terre. Et c'est pour ça que Dieu avait dit « Prenez soin de la nature des animaux. » Et eux, ils étaient en train de se diriger vers quoi ? Vers le ciel. Ils avaient quelque part abandonné la terre que Dieu leur avait donnée pour ériger cette tour et s'élever vers Dieu. Dieu n'est pas contre que l'homme se tourne vers lui, s'oriente vers lui. Mais Dieu s'oppose à une idée de se rassembler pour avoir des capacités humaines de se protéger soi-même. Une autoprotection. Pas de place pour ça. Et donc, par la création de l'homme à son image, Dieu donne à l'homme non seulement le souffle de vie, mais la responsabilité d'un idéal de vie durable dans la dépendance de la vraie source de vie, Dieu lui-même. Et nous voyons que là, l'homme va mettre en place des moyens. Ils vont donc fabriquer des briques, ils vont fabriquer avec du bitume, ils vont prendre des pierres et ils vont commencer à construire et construire et encore construire. Jusqu'au moment où Dieu va venir et va se dire « C'en est trop, il faut arrêter cette entreprise ». Je ne peux pas les laisser continuer dans cette direction. Et là, Dieu va faire quoi ? Dieu va confondre les langages. La tour, dans Genèse chapitre 11, est un édifice humain, symbole du désir chez l'homme, de grandeur personnelle. Faisons-nous un nom pour nous. Les hommes s'unissent donc dans l'ambition d'une glorification de l'homme et non plus de Dieu, qui irait jusque dans le ciel. Mais l'issue n'est que confusion, division, et dispersion. Et c'est ainsi que l'homme a cherché la sécurité sans Dieu. C'est ainsi que l'homme a voulu, à travers cette expérience, défier Dieu. Et là, la tour de Babel, donc avec plusieurs significations, mais à peu près toujours la même chose, en français, on pourrait dire, c'est du blablabla. Il parle pour rien dire. Babel, confusion. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et lorsque cette tour est en train de se construire, on sait très bien que le menuisier demande le marteau et on lui ramène une pelle. Et vous voyez un peu l'idée. Si vous êtes en train de construire un bâtiment et que vous avez besoin du sable et qu'on vous ramène de l'eau, ça pose problème, n'est-ce pas? Comment est-ce que cette chose va se poursuivre? L'intervention de Dieu est certainement de la même nature que les autres jugements qui ont précédé. Et je vous fais un petit rappel ici. L'expulsion du jardin d'Éden n'a pas mis l'extinction à cette race humaine. Non, l'expulsion de l'Éden, mais Dieu a préservé la race humaine. Il y aura le châtiment de Caïn. Dieu ne va pas détruire Caïn. Dieu va lui dire, tu vas partir et tu auras un signe sur ton front. La destruction par le déluge, Dieu va épargner la famille de Noé. Et Babel, donc division, dispersion, cessation des activités de construction, mais la survie reste là de cette humanité. Tout à l'heure, nous avons dit, et je le rappelle, le ciel est pour Dieu et l'homme a sa demeure ici-bas sur la terre. Dieu avait confié en bon gestionnaire à Adam et Ève de s'occuper des choses de la terre. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, nous voyons très bien que l'homme, maintenant, s'occupe plus des affaires de la terre que des affaires de Dieu. Spirituellement parlant, on s'attache aux choses de ce monde. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux pour se dire, faisons-nous un nom. Appelons-nous Twitter. Allez, tout le monde suit Twitter. Ce soir, je vous donne rendez-vous. Ou allez, appelons-nous Facebook. Allez, on se met tous sur Facebook, on va pouvoir échanger un petit peu ce qui s'est passé pendant les conférences, ce que vous avez fait pendant votre journée. Et puis, on voit que sur ces réseaux sociaux, il y a plus que des informations utiles. D'ailleurs, j'ai presque envie de vous dire que les informations sont pour 99% inutiles. Certains racontent leur vie entière sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. À quoi bon? On ne sait pas. Ou du moins, moi, je ne sais pas. Certains, peut-être dans celle-là, le savent, mais moi, je ne sais pas. Toute la terre, nous dit la Bible, avait une langue. Et Dieu va confondre la langue de toute la terre. Au verset 9. Ils sont dispersés sur toute la surface de la terre. Et lorsque Dieu s'adresse à toute la terre, c'est parce qu'il veut que toute la terre soit concernée par le message qu'il a. Ainsi, on va voir dans le livre de l'Exode, par exemple, Exode chapitre 19, le verset 5. Parce que si je dis des mots sans avoir de texte, ce n'est pas très bien. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Toute la terre est à moi. Ça veut dire que quand Dieu s'adresse à l'humanité, il dit, vous m'appartenez. Je vous ai créé, vous êtes à moi. Mais l'homme dans son cœur, il se dit, il n'y a point de Dieu. Dieu n'existe pas. Et parce qu'il n'existe pas, il va falloir qu'on se fasse un autre nom que celui que Dieu nous a donné. Au départ, chers amis, lorsque Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, n'était-il pas en train de donner un nom à cette humanité? Lorsque Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden, est-ce que Dieu n'était pas en train de donner une situation à cet homme et à cette femme? À l'humanité, donc. Psaume, chapitre 24, le verset 1er. Psaume, chapitre 24, le verset 1er. Encore un texte très clair pour chacun d'entre nous. Psaume de David à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À qui? À l'Éternel. Donc, peu importe la décision que l'homme pourra prendre, la terre appartient à Dieu et il l'a donnée à l'humanité, à Adam et Ève, la gestion de cette terre. Il y aura là donc plusieurs leçons qui vont se retirer de cette tour de Babel, de cette démarche de l'homme, des architectes, des constructeurs de Babel. Elle révèle vraisemblablement une dynamique de rebelles, d'hommes et de femmes qui refusent de faire la volonté de Dieu. Des hommes et des femmes qui se disent « Nous, on veut faire autrement de ce que Dieu nous a demandé de faire. » Des matérialistes, probablement, parce qu'ils n'avaient plus envie de perdre ce qu'ils avaient perdu dans le déluge. Finalement, se dire « Si on se fait un nom, comme l'avait dit le premier marchand de la mort, vous serez comme des dieux. » Donc si on est comme des dieux, on devient des athées, des rétives. Le projet de se faire un nom, le refus d'obéir à l'ordre que Dieu avait donné, de remplir la terre, s'imaginer pouvoir toujours s'approcher de Dieu, toucher le ciel, construire ce projet avec des matériaux pensés par l'homme, donc on avait vu tout à l'heure les briques, et enfin créer entre tous une dynamique d'union efficace. Donc nous quittons un petit peu le monde de Noé, nous quittons un peu le monde de Babel et nous allons nous intéresser à ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, certainement même, qu'il y a encore des hommes et des femmes qui tentent, tant bien que mal, de construire des tours. Ça s'appelle plus Babel. Comment s'appellent ces tours ? Burj Khalifa ? Combien ? 828 mètres à Dubaï. Mecca Royal Clock Tower. Hôtel à 600 mètres de haut. C'est la Mecque. La tour 101 de Taipei, 509 mètres. Shanghai, 492 mètres. Et maintenant, au moment où je vous parle, la Chine a déjà fait une annonce de son projet avec une tour de 838 mètres. Et Dubaï, qui est déjà en compétition, a déjà dit qu'ils veulent faire une tour plus haute encore. Nous sommes dans une compétition en permanence d'être toujours plus haut que l'autre. Et c'était déjà la pensée de cet homme, enfin quand je dis de cet homme et de ces hommes, pour la tour de Babel, se rapprocher de Dieu, se mettre tous ensemble. Personnellement, je ne voudrais pas vivre à 700 mètres de haut. Parce que je m'imagine avec les mouvements de terrain, des continents, des tremblements de terre, ce que ça peut donner. Pour avoir vu la tour qui est juste en face pendant les cyclones, je parle de cyclones, hein, ça bouge. Elle n'est pas très haute, notre tour, juste à côté. Mais imaginez-vous quand vous êtes à 700, 800 mètres là-haut, ce que les vents peuvent faire. Juste à y penser, j'ai le tournis. Tous veulent dépasser de quelques mètres le dernier record, se faire un nom par toute la terre, et d'ainsi flirter avec le ciel. Voyons quelques pourcentages d'hommes et de femmes qui se connectent un peu sur les réseaux sociaux et l'influence que cela peut emporter. L'enjeu commercial des réseaux sociaux pour des marques, 38% des sociologues, socionautes français sont abonnés ou fans d'au moins une marque sur les réseaux sociaux. 82% des Français présents sur les réseaux sociaux y attendent de la part des marques des informations exclusives. Je vais être le premier à être informé. Et même, les informations vont leur servir à l'ouverture des magasins, lorsqu'il y a un nouveau produit qui arrive. J'ai vu, et vous avez vu aux informations, quand il y a le nouveau smartphone qui arrive, les gens ne dorment pas, ils campent devant le magasin. Pour que quand le magasin s'ouvre, je suis le premier à aller acheter le smartphone. 16% des socionautes déclarent être devenus nouveaux clients d'une marque grâce au réseau social. 80% s'attendent à y bénéficier d'un service plus réactif. Possible. Oh, vous les connaissez, ces sigles, hein, ces petites icônes. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Allez vers l'unité. Est-ce aller vers le rassemblement des personnes ou la convergence des idées, voire même des idéologies ? Les nouvelles technologies n'ont pas toujours bonne presse. On nous dit que cela entrave la bonne marche des relations sociales. Je vous ai dit tout à l'heure, les gens qui ne sont pas toujours très loin, ils s'envoient des textos. J'ai même entendu dire que certaines sont dans une chambre pendant que l'autre est dans la cuisine. Ils s'envoient des textos. C'est l'heure du repas. On vient manger. Chers amis, nous sommes dans un monde où la confusion règne. Nous sommes dans un monde où chacun veut se faire un nom. On veut être vu. J'ai presque refusé d'être filmé pour ces conférences. Mais j'ai horreur d'être vu. Mais voilà, j'y suis, j'y reste. Mais combien de personnes se mettent derrière leur écran et commencent à lancer des... Je ne sais pas, moi. Vous connaissez, vous, hein, sur les YouTube, toutes sortes de choses, sur tous les sujets possibles et inimaginables. Et tous ont la science infuse. Parfois, la science est même infusée. Tous. Regardez mon site. Allez voir tel site. Chers amis, est-ce que nous serions nous aussi prisonniers ce soir de tous ces réseaux sociaux qui nous empêchent d'être en relation directe, un face-à-face avec notre prochain? Un homme un jour a décidé pendant 6 mois de poser sa tablette, d'éteindre son ordinateur, de se déconnecter d'Internet. Plus de téléphone pendant 6 mois. Le bien que ça lui a fait. Est-ce que ceux qui sont là dans cette salle, et même ceux qui sont derrière leur écran, vous seriez capables de vivre une seule journée sans votre téléphone, sans votre tablette, sans votre ordinateur, sans Internet? Beaucoup répondent oui. Mais lorsqu'on considère les études médicaux, les gens qui étudient le cerveau humain, les gens qui se disent aujourd'hui que l'addiction aux écrans est grave. Récemment, il y a quelques mois en arrière, on a retrouvé des jeunes qui étaient morts. Ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient en train de jouer. D'accord ? Ils étaient sur leur PlayStation, je ne sais pas comment vous appelez les derniers cris. D'accord ? Ils étaient en train de jouer en ligne. Et ils avaient oublié de manger, et ils avaient oublié de boire, et ils avaient oublié qu'il y avait des parents dans la maison, et ces jeunes sont morts. Des jeunes sont devenus malades, d'accord ? On les retrouve en psychiatrie, parce qu'ils étaient toute la journée avec leurs écrans. Les gens ont des problèmes de vue, parce que la lumière des écrans abîme leurs yeux. Les gens sont devenus mous. On leur demande d'aller faire une excursion, ils font 2 pas, ils sont fatigués, parce qu'ils sont derrière leur écran. Moi, je connais un jeune, à l'entre-deux, un brave garçon, gentil comme tout, mais il est tout le temps sur son jeu. Tout le temps. Et quand on fait des randonnées le jeudi matin, là, vous l'entendez, là. C'est encore loin. C'est dur, alors qu'on marche dans le plat. Je n'exagère pas ici. D'accord ? Et pour pallier à ça, certains ont trouvé l'astuce. Ils achètent, vous savez, des petites roulettes, un peu comme les skateboards, là. Ils montent dessus, et pour ne plus faire de sport, eh bien, ils se déplacent là-dessus. Oui, c'est écologique, soi-disant. Enfermés dans ces réseaux sociaux. Ah là là, que va-t-on devenir ? L'influence des réseaux sociaux, et là vous l'avez à l'écran, on sait très bien que cela nous fait perdre du temps. Mais on recommence. On sait très bien qu'on a peur de rater quelque chose. Donc on va être toujours à la une de l'information. Il faut qu'on soit à la pointe de cette information. Il faut qu'on sache en premier pour que les autres... ne viennent pas nous dire « Hé, tu as entendu parler d'eux ?» Non, non, c'est moi qui te dis « Hé, tu as entendu parler d'eux ?» On n'a plus d'intimité. on est devenus des inconnus, parfois même sous le même toit, ce que j'ai dit. On peut être une personne différente. Les autres déteignent sur nous et vice-versa. Mais que dirait Jésus à ses dirigeants et aux utilisateurs? À votre avis, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Beaucoup de choses. Déjà, avant d'aller dormir, éteins ton téléphone. Déjà. Parce que il y a toujours des ondes qui passent. Débranche ton Internet, tu n'en as pas besoin la nuit. Tu dormiras mieux. Alors, vous savez, certains ont trouvé des astuces bizarres. Ils retournent leur mobile sur la table pour ne pas voir l'écran. Mais le téléphone est là, au cas où ça vibre, au cas où ça sonne. Certains ont trouvé l'astuce à ce manque de temps de se parler. Ils envoient des SMS. Certains ont trouvé des astuces pour dire des vérités aux autres sans les affronter en face. Ils les envoient des mails. Ne répondre en direct qu'à sa femme ou à ses enfants, par texto donc, pour éviter de les affronter. Ne pas regarder ses mails pendant le week-end. Pourquoi pas? Mais le nombre de mails, hein? Arrivé le lundi matin, vous ne savez plus quoi faire avec. Oui, certainement que tu aimerais qu'on se déconnecte de toutes ces connexions humaines et qu'on se reconnecte à la source de vie. Certainement que Dieu voudrait qu'on puisse à un moment donné faire stop. Oui, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Oui, il y a des informations qui sont, mais alors là, en profusion. Chers amis, est-ce que vous avez besoin de tout savoir? Est-ce que vous avez besoin de tout savoir sur tout? La Bible nous dit qu'à une certaine époque, certainement la nôtre, que la connaissance augmentera. Aujourd'hui, on a tellement de connaissances, on ne sait plus quoi en faire. Tout le monde sait tout. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je ne dirai pas combien de temps, je suis allé voir un médecin. Et le médecin était en train de me consulter. Et il tapait sur son ordinateur en même temps. Je dis, bon, peut-être qu'il est en train de taper son rapport. Et au final, quand je lui avais déjà dit tout ce que j'avais, il a regardé l'ordinateur, il a tourné l'ordinateur vers moi, il m'a dit, voilà, monsieur Blanco, c'est ça que vous avez. Je lui dis, ben, si vous, vous êtes médecin, vous demandez à votre ordinateur ce que j'ai, ben, carrément, je rentre à la maison, je demande à mon ordinateur ce que j'ai. Comme ça, je ne paye pas de consultation et je ne lui fais pas perdre mon temps, son temps et le mien. C'est vrai ou c'est vrai? Il était en train de prendre un diagnostic sur Internet alors que j'étais en face de lui. Alors que c'est lui le spécialiste, le médecin. Une autre histoire. Des touristes s'en vont du côté de là où il y a les Indiens, des peaux rouges, et à un moment donné, ils en trouvent dans le désert, là, avec leurs chevaux, leurs grandes plumes, et se disent « Ouais, chouette, on va pouvoir leur poser une question. » Une question qui, à leur sens, était très importante. Ils étaient touristes, n'oubliez pas. Et là, ils rencontrent ces Indiens, ils leur disent « Dites-nous, est-ce que demain il fera beau ?» C'est important, ils sont touristes. Et les Indiens répondent « Oui, oui, demain il fera beau. » Alors les touristes qui sont un peu surpris, dit, mais comment vous pouvez nous dire qu'il fera beau demain? Comment vous pouvez lire dans la nature? Et les Indiens qui répondent, ben c'est simple, on a regardé la télé, les informations et la météo, comme tout le monde. Alors que, initialement, on avait cette connexion avec la nature, on avait cette connexion avec Dieu qui nous permettait de savoir ce qu'il en serait de pour demain. Et aujourd'hui, on s'appuie sur des technologies. D'ailleurs, moi j'aime bien dire, hein, ça s'appelle des prévisions météorologiques. Parce qu'une fois sur 10, ça marche. Les 9 fois, c'est douteux. En tout cas pour l'île de La Réunion. Ailleurs, peut-être qu'en France, c'est un peu différent. Il nous faut changer les mentalités, chers amis. Il nous faut absolument retourner vers l'essentiel. Il nous faut retourner vers ce Dieu qui est la source de la vie, la source de toute connaissance. Dieu a donné l'intelligence aux hommes. Mais l'homme, je vous l'ai déjà dit, a utilisé cette intelligence pour détourner son prochain. Allez, voyons encore trois autres textes ensemble. Apocalypse 18. Au verset 4. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Sortez de ce monde confus, de ce monde de perdition, de ce monde d'obscurité. Revenons à la lumière, revenez à la lumière. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Il veut nous éclairer. Il veut que nous puissions être sur le sentier qui mène à la vie éternelle. Et on l'a vu tout à l'heure. Si on abuse des réseaux sociaux, si on abuse des écrans, on va tomber malade. Le salaire du péché, c'est la mort. Matthieu, chapitre 11. Le verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez donc à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que vous pensez qu'au moment où Dieu s'adresse à l'homme dans le jardin d'Éden, où es-tu ? Je vous ai posé la question la dernière fois. Est-ce que Dieu ne savait pas où était l'homme ? Mais bien sûr que si, il savait où était l'homme. Mais si aujourd'hui, on pose la même question, cher ami, où es-tu ? Où te trouves-tu dans tous ces réseaux sociaux ? Où te trouves-tu dans cette société ? Où te trouves-tu dans ton travail ? Où te trouves-tu à l'école ? Où te trouves-tu à l'université ? Où te trouves-tu dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien ? Est-ce que tu n'es pas un peu perdu ? Est-ce que tu n'as pas fui ma face ? Est-ce que tu t'es pas caché de moi ? Venez à moi. C'est une invitation solennelle. Venez à moi. Je sais que vous êtes fatigué, je sais que vous êtes confus, je sais que vous êtes perdu. Venez. Venez, je vous dis, et je vous donnerai du repos. Abandonnez. Abandonnez ces choses de ce monde. Jean 17, 17 qui nous rappelle qu'il y a une seule vérité. Je pense que vous connaissez ce texte, mais si vous ne le connaissez pas, on va le lire ensemble. Très très court comme verset. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Il y a là donc trois textes qui nous rappellent ce que Dieu veut pour nous. Il veut notre bien. Et ce bien passe par la vérité, pas par le mensonge de ce monde, pas par les discours de ce monde, pas par la science de ce monde, pas par l'intelligence de ce monde, mais vraiment et uniquement par la connaissance de Dieu. Il nous faut donc revenir à l'essentiel, comme je vous ai dit, car c'est la parole, la vérité qui va nous sanctifier. Voulez-vous, vous aussi, prendre du temps pour laisser la parole de Dieu vous sanctifier, vous transformer et donner du sens à votre vie ? Si c'est le cas, connectons-nous à la source de la vie, qui est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Chers amis, il est encore temps de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice, parce que Dieu a un temps pour toutes choses, un temps où il nous appelle, un temps où il interpelle, mais il y aura un temps où il va arrêter d'appeler. Il y aura un temps où il va se taire. Aujourd'hui, il est encore temps d'ouvrir ses yeux. Voici donc cette conclusion pour ce soir. Qui que tu sois, peu importe le chemin par lequel tu es passé, peu importe les épines qui t'ont blessé, peu importe les cailloux sur lesquels tu as marché, peu importe les erreurs que tu aurais pu commettre dans ta vie de connexion, déconnecte-toi maintenant. Reviens sur la vraie connexion, l'unique connexion qui mène à la vie éternelle. Que Dieu te bénisse.